Allez-y, madame, ne tirez pas sur la porte.
Merci.
Mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger une femme qui est vraiment soumise à ça?
Ça, c'est une violence légale.
Je ne peux pas dire « j'ai abandonné ». Non, ça ne va pas. Je dois faire.
Vous savez que ça ne va pas déboucher.
Mais je vous aide à vous dire « bah, vous êtes encore debout ».
Vous êtes dans l'épisode 3. Si la justice ne nous protège pas, qui va le faire ? Parmi les femmes qui m'ont livré leur histoire, beaucoup ont porté plainte, parfois plusieurs fois, dans des conditions allant de chaotiques et violentes à, plus rarement, adaptées et humaines. Leur regard vis-à-vis du fonctionnement de la justice est à l'image du sentiment qu'elle leur a laissé, amer. De fait, une ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, reconnaissait elle-même en 2019 une chaîne pénale pas satisfaisante, je cite, en matière de violences faites aux femmes. Et pour cause. Un rapport de l'inspection de la justice publié la même année avait mis en exergue des informations pour le moins alarmantes. Dans 2/3 des cas de féminicide, des violences conjugales avaient déjà été signalées, sans rien empêcher, hélas. 80% des plaintes déposées avaient été classées sans suite. Bienvenue dans l'épisode 3 de la série « Écoutez agir, le rôle de Citadel dans la lutte contre les violences au sein du couple ». Ce podcast est le fruit d'une collaboration entre la direction égalité de la ville de Nantes, Citadel, le lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences, Erel Latimier, créatrice sonore, et moi-même, Clémence Levaux.
Si j'avais une baguette magique, je rendrais, je mettrais un deuxième étage à Citadel avec plus de monde.
Nina.
Pour pouvoir accueillir plus de femmes, avoir plus de temps pendant les entretiens. Et avec cette baguette magique, je demanderais à ce que voilà, le recueil des plaintes soit différent à la police. Qu'il y ait une sensibilisation sur le fait que ça prend du temps. Ce sont des plaintes très longues qui demandent d'aller dans le détail. Qu'il faut être patient, que c'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'un portable volé, forcément, c'est par définition, c'est pas la même chose. J'aimerais faire en sorte que voilà, le commissariat soit plus accessible, dans les rendez-vous notamment, en prenant rendez-vous, voilà, le jour où on est prêt, où on a tout notre dossier, ne pas faire attendre les gens parce que c'est le Covid, parce qu'il y a plein de monde, parce qu'il y a des juges, bah, 1h30 dehors, plus encore 1h dedans, voire 2h parfois, pour une plainte qui va durer peut-être 10h. Physiquement, c'est hyper dur. D'admettre que peut-être on fait quelques heures et puis on s'arrête, on revient demain pour finir. Parce que bah, là, c'est trop d'émotions. On n'y arrive pas. Ça, déjà, ça serait extraordinaire. Et ne pas cataloguer... Comment dire ? Ces plaintes, la plupart du temps, elles ne débouchent pas. Donc... Pour protéger les femmes, bah, faudrait déjà que la mécanique s'enclenche, quoi. Et les violences psychologiques, vraiment, c'est celles où la nuit, on peut exercer des violences sur vous, en vous parlant toute la nuit, ou des choses comme ça. Bah voilà, c'est vous empêcher de dormir, ou voilà, certaines choses, où vous décrédibilisez auprès de votre entourage, ça a beaucoup plus d'impact. Et ça, c'est pas reconnu. Et quand j'ai pris des nouvelles de ma plainte la dernière fois, on m'a dit... Bah vous, c'était... Oui, bon, il y avait du psychologique, mais bon, enfin, globalement, c'était plutôt... Oui, bon, vous avez peut-être ressenti que vous avez eu l'impression que... On est dénigré, en fait. Même devant la police, on peut avoir ce discours-là. Mais non, concrètement, oui, enfin, bon, d'accord, ok, bon, il a parlé sous le coup de la colère. Non, il a... Ouais, mais il a dit 300 fois cette année, quand même. C'est pas le coup de la colère, là. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et ça, pour le coup, ça protégerait vraiment les femmes. De reconnaître l'existence de la violence psychologique. C'est très dur à démontrer. Reconnaître aussi qu'on n'a pas les moyens de la démontrer. Mais que c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'elle n'existe pas. Je sais que c'est dur et que toutes les précautions doivent être prises. Mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger une femme qui est vraiment soumise à ça ?
En fait, je pense que de façon assez générale, quand on parle de violence, on pense à femmes battues. Mais tout ce qui arrive avant,
Julie,
avant ces événements-là, notamment dans les femmes battues ou tuées, bah, y a tout un processus de violence qui porte pas de nom, en fait. C'est les violences psychologiques. C'est pas palpable, en fait. Et Et en fait, on s'en rend pas compte qu'on est dans un système comme ça tant qu'on ne nous l'a pas dit ou qu'on n'a pas verbalisé un peu ces choses-là. Et après, en France, je dirais que la police aussi, elle est ambivalente parce qu'à la fois protectrice et à la fois mal informée. Enfin, à Nantes, il y a une personne qui est très bien, qui connaît les problèmes et qui est super, mais je pense qu'elle est, elle est pas assez nombreuse.
Surtout, on m'a cru. C'était surtout ça. On m'a cru, on m'a écouté.
Yasmine.
Il a pris le temps. Et ils ont été adorables. C'est que la veille, ils m'ont accompagnée jusqu'à ma voiture pour récupérer mes affaires dans la voiture. Ils m'ont guidée. Ils m'ont accompagnée jusqu'à la maison, jusqu'à la porte. Ils ont attendu que cette amie vienne m'ouvrir la porte. Ils m'ont donné des conseils. Le lendemain, ils m'ont appelé pour être sûr que je vienne. Je ne sais plus s'ils sont venus me chercher. Non, je crois que c'est cette amie qui m'a déposée. Ils ont demandé à ce qu'elle m'accompagne. Ils ont même demandé à ce qu'ils restent avec moi. Enfin, non, ils étaient super. En tout cas, la gendarmerie de... Voilà, ils étaient géniaux. Et le lendemain, j'ai eu la même personne aussi. Ça, c'était bien. C'était bien. C'est pour ça que ça a duré très longtemps. Parce que j'étais... C'était compliqué pour moi d'en parler. C'était... Je réalisais ce qui se passait. Mais ils m'écoutaient. Ils ne me coupaient pas. Et des fois, j'étais complètement... comment dire ? J'étais ailleurs dans mes phrases. C'était pas cohérent, ça répondait pas à la question, mais c'était pas grave. Il écoutait quand même, et c'est tout ce que j'avais besoin. D'une écoute, d'être comprise, et de me dire, bah oui, tu étais victime, et non, c'était pas normal ce que tu as vécu.
Les besoins des femmes aujourd'hui en matière judiciaire, ce seraient des mesures de protection fiables, et des condamnations.
Léonie, coordinatrice de parcours.
Et aujourd'hui, c'est très peu le cas. Il y en a, il y a des mesures de protection qui sont mises en place, il y a des condamnations, mais au regard du nombre de femmes accueillies et du nombre de femmes qui en ont besoin, c'est encore minime. Et par rapport au dépôt de plainte, aujourd'hui, on a... un partenariat avec la brigade des familles de la police judiciaire et avec la maison de la protection des familles de la gendarmerie. Donc, ça facilite les dépôts de plaintes. Ils sont plus formés à la question des violences. Mais lorsqu'une femme va se présenter au commissariat ou à la gendarmerie et qu'ils vont se confronter à des personnes qui ne sont pas formées à la question... c'est encore très difficile de ne serait-ce que de déposer plainte.
Moi, j'entends à travers ce que peuvent dire les victimes, de la frustration, de la déception par rapport au travail de la police, par rapport au travail de la justice. Et bien évidemment, ça interpelle et ça a raison d'interpeller.
Blandine Martin, vice-procureure, référente violence conjugale du tribunal judiciaire de Nantes. Elle est notamment en charge de l'animation du COPIL VIF, le comité de pilotage sur les violences intrafamiliales, installé depuis près d'un an. Cette instance rassemble tous les mois des représentants et des représentantes de différents services de la justice, de la police et des associations du territoire pour échanger et faire du lien autour des situations les plus à risque.
Notamment sur des classements sans suite, notamment sur des dépôts de plaintes qui n'ont pas forcément abouti, pour lesquels elles n'ont pas de réponse. Ou pour lesquels voilà, les plaintes ont été prises rapidement, alors que finalement, elles avaient envie de raconter l'histoire de leur vie. Et donc j'entends cette frustration, cette déception. En même temps, ça montre tout le travail encore qu'on a à faire. On n'est pas dans une organisation qui est toujours toujours idéal, je l'entends bien. C'est-à-dire que on pourrait imaginer, et ça serait sans doute parfait, que les personnes qui prennent des plaintes, qui s'appellent des plaintiers, soient spécialisées dans les violences conjugales, certains soient spécialisés dans les violences conjugales et puissent être formés à ça. Alors non pas qu'ils soient pas formés à cette prise de plainte, parce qu'en effet, il y a aujourd'hui un canevas pour la prise d'audition, un certain nombre de choses, mais en état actuel, c'est-à-dire qu'effectivement, la première prise de plainte, elle est faite par des plaintiers qui ne sont pas rattachés à la brigade des violences conjugales, qui ne sont pas rattachés à la brigade de la protection de la famille. Ça ne veut pas dire que cette plainte-là, elle ne va pas évoluer dans le temps, et souvent dans les enquêtes, les victimes sont réentendues, donnent des éléments de compréhension, donnent des éléments de précision, apportent un certain nombre d'éléments factuels, des messages, des lettres, des courriers, des enregistrements, donnent des noms de témoins qui peuvent être entendus. Et donc ça, en effet, ça a de l'intérêt. Et donc la première prise de plainte, même si je comprends que c'est parfois compliqué de passer la porte d'un commissariat, c'est le début de l'enquête et il y aura d'autres actes d'enquête qui sont faits derrière, sous notre direction. Je crois que c'est aussi important de faire confiance aussi à la direction d'enquête que la justice peut faire avec les enquêteurs. Et c'est, je crois que c'est important de le dire, c'est un travail d'équipe. Pas un travail d'équipe, moi avec mes collègues du parquet, c'est pas un travail d'équipe police-justice, c'est un travail d'équipe avec des associations qui sont impliquées dans les violences conjugale, avec les différents, toutes les associations et puis la police et la justice. Et c'est vraiment à ce titre-là qu'on travaille. L'idée, c'est d'éviter une situation extrêmement... éviter la catastrophe, repérer les éléments de danger, repérer les situations de danger pour pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Et ce que j'essaye de mettre en place, alors depuis septembre 2021, mais c'était déjà le travail de ma collègue, c'est vraiment ce partenariat police, justice, association, toutes les personnes qui interviennent, pour que finalement on puisse échanger sur des situations qui présentent un caractère de danger et qui puissent être traitées. Donc que ça soit Citadel, France Victime, SFLA, Résonante, enfin toutes les associations, tous les partenaires sont en éveil là-dessus et savent et ont vraiment maintenant aujourd'hui un interlocuteur digne de ce nom à qui elles peuvent confier leurs questionnements, les situations qui leur posent difficultés, les situations à risque. Et on est vraiment dans ce travail collectif qui me semble fondamental.
C'est vrai que c'est pas forcément facile de comprendre pourquoi une personne endure ça pendant des mois, voire plus qu'une année.
Nina.
Et du jour au lendemain, elle a besoin de le faire tout de suite. Mais c'est vraiment un switch qui se fait. C'est comme si on avait le courage à ce moment-là de le faire. Et les éléments sont réunis. Et la parole, on sait qu'elle va passer et tout va passer maintenant parce que tout est structuré. Mais à la fois, ça génère un tel stress, un état de fatigue que vraiment, je crois que c'est important de la recueillir quand elle est disponible. Mais je comprends bien que ce soit difficile d'avoir des ressources qui permettent d'accueillir quelque chose qui peut être si long. Et voilà, ça doit être de la redite et ça ne doit pas être très agréable à entendre. Mais à la fois, c'est ça aussi, déposer ce qui s'est passé.
On a effectivement le sentiment d'être... utile pour ces femmes parce qu'on fait du lien et ça permet de clarifier la situation. Et j'espère, enfin en tout cas j'imagine que ça permet de faire avancer les choses un peu plus vite que si elles étaient seules. Et en même temps, on peut pas faire sans la justice malheureusement avec cette problématique.
Léonie, coordinatrice de parcours.
Et nous, on peut essayer de protéger les femmes au maximum en mettant tout en place autour d'elles. Mais malheureusement, c'est la justice qui fera qu'elles seront protégées et que les auteurs seront condamnés. Mais pour l'instant, on n'y est pas.
Le jour où tu te sens impuissante ?
Oui, bien sûr. Oui, ça arrive souvent. Notamment quand il y a des retours de décisions de justice qui ne sont absolument pas adaptées à la situation.
Il y a 3 ans, le gouvernement lançait le Grenelle des violences conjugales. Parmi les 56 mesures adoptées, étendre l'accès au 3919 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, multiplier la délivrance de téléphones grave danger, multiplier la délivrance d'ordonnances de protection des victimes, Presque 6 000 ont été délivrés l'année dernière en France. C'est environ 30 000 en Espagne. Globalement, renforcer l'arsenal juridique. Pour les associations, les moyens mis à disposition n'étaient pour autant pas suffisants pour faire face à l'ampleur des violences. Au mois de septembre, la Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé le lancement d'une mission parlementaire pour, je cite, « faire le bilan et améliorer le traitement judiciaire de ces violences pour une action judiciaire lisible, réactive, performante et qui concilie spécialisation des enquêteurs et des magistrats avec la proximité nécessaire pour les victimes. »
Ça me fait bifurquer, il y a un décalage entre la loi
Julie.
Et l'application de la loi. Parce que la loi protège, justement dans la loi, les violences, le silence, qui moi m'avait marqué, le silence est une violence. Et en fait, de se dire avec des preuves à l'appui de spécialistes qu'on a été victime de violences psychologiques n'est pas suffisant pour que la justice reconnaisse ça. Et là, il y a un gap entre la loi et la réalité de son application. Et là, il y a un énorme travail à faire.
Et à ton avis, qu'est-ce qui pourrait changer ça ?
Eh bien, je pense... Avant, je n'étais pas assez engagée. Je pense que ce qui peut changer ça, c'est d'en parler et de s'engager dans des mouvements type MeToo ou de faire encore plus parler, mais pas de façon violente, mais de faire remonter la parole des femmes qui ont vécu ça, de le dire et de crier fort et de montrer que ça existe et d'informer les gens le plus possible. Je pense qu'on en parle, on connaît mieux, on met des mots. Donc ça, c'est déjà une première étape. Mais après, surtout au niveau de la justice, y a un trou, il y a un fossé encore.
La réalité, c'est que, et je m'interroge vraiment là-dessus, c'est que le nombre, en tout cas, de situations ne diminue pas, alors qu'en fait, voilà. Donc c'est comment on travaille pour...
Blandine Martin.
Pour sensibiliser, pour prévenir. Y a un vrai sujet, à mon avis, de travail là-dessus, puisqu'on voit que ça ne baisse pas. Ça, c'est cette réalité-là. Après, en termes de moyens, je peux pas vous dire que je peux pas vous dire qu'on a les moyens suffisants. C'est une réalité. Voilà, je suis référente violence conjugale. Je suis de permanence de façon régulière sur tous les contentieux. Donc ça veut dire que la gestion des gardes à vue. Je suis d'audience régulièrement. Donc finalement, le temps qui peut me rester au bureau est quand même extrêmement réduit, sans compter les dossiers d'instruction qu'on a à régler, les débats sur lesquels on doit aller, le courrier à lire. Et donc, en effet, il reste quand même vraiment un temps extrêmement réduit pour un travail de fond. Et donc ça, c'est aussi frustrant. Donc, bien évidemment, si ce contentieux-là pouvait être un peu extrait de la permanence générale, j'avais envie de dire, ça serait extrêmement... Ça serait magnifique, mais c'est pas la réalité et c'est impossible aujourd'hui, compte tenu des effectifs. Et on peut pas dépouiller les services de cette ressource-là. C'était ça qui m'avait... Oui, non, et je pense que le temps, et je pense que ce qui est d'autant plus frustrant, et je le dis, c'est que justement, tout ce que je peux entendre dans les podcasts, dans les émissions de télévision, sur le travail de la justice, montre combien on a encore à travailler sur notre métier, sur ce qu'on y fait, comment on le fait à l'extérieur. Non pas pour se justifier, parce que je pense qu'on n'est pas sur un travail de justification, mais c'est plutôt pour essayer de tisser des liens avec tous les partenaires, tous les intervenants, pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils aient, à un moment donné, identifié une personne à qui ils vont pouvoir poser des questions. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de bâtir ensemble des projets, mais pas des projets pour des projets, mais des projets qui vont, à un moment donné, faire en sorte que ça soit la prévention, que ça soit la réponse pénale, elle puisse se faire dans des temps de la meilleure façon. Et finalement, quand vous êtes un peu noyé dans cette permanence-là, dans le la permanence générale. Et c'est tout à fait normal. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Ben, finalement, vous avez ce travail de partenariat. Il ne peut pas se faire. Et que finalement, ben, à chaque fois qu'on doit participer à une réunion ou à un échange, ben, en fait, vous êtes de permanence, vous devez vous faire remplacer. Donc, il n'y a pas de temps dédié sur ce contentieux-là particulièrement. Et ça, c'est extrêmement compliqué et puis peut-être un peu frustrant aussi.
Caroline Godard, responsable d'établissement à Citadelle.
Et je dirais que la différence dans les tribunaux, c'est quand même qu'il y a une politique publique qui est descendue et qu'à un moment donné, elle doit être appliquée. Donc elle est appliquée comme ils peuvent l'appliquer avec les moyens du bord. Pour autant, il y a quand même... Il y a moins la mansuétude qu'il y avait avant dans les décisions de justice. Vraiment, c'est... Voilà. Maintenant, il y a toujours insuffisamment de condamnations. Et de toute façon, il y aura toujours insuffisamment de condamnations parce qu'il y a insuffisamment de faits qui sont aussi révélés. C'est-à-dire que, à mon avis, le chiffre noir des violences faites aux femmes reste extrêmement important. Alors, selon moi, les décisions de justice aujourd'hui dans le cadre des violences faites aux femmes sont de plus en plus sévères à l'égard des auteurs de violences faites aux femmes, notamment dans le cadre des violences conjugales. Et ce notamment, enfin, moi j'ai vu une vraie évolution, à la fois depuis le Grenelle des violences en 2019, mais également depuis le féminicide de Mérignac, qui a aussi donné à voir qu'il fallait plus de communication entre les services pour que les prises en charge à la fois des auteurs et des victimes évoluent, et donc que l'ensemble des acteurs autour de la table puissent se réunir, et c'est notamment dans des instances comme le comité de pilotage violences intrafamiliales que ces acteurs se réunissent et peuvent communiquer sur des cas préoccupants, des situations qui peuvent être dangereuses et donc déraper extrêmement rapidement. Et c'est grâce à ces comités qu'on peut arrêter ces violences, parce que justement l'ensemble des services, à la fois les services de police, les services qui prennent en charge les auteurs sur le plan pénitentiaire ou associatif, les services qui prennent en charge les victimes, mais aussi les services du civil, comme les juges aux affaires familiales, les juges des enfants et les services judiciaires, donc les juges d'application des peines et le procureur qui mène le copier de vif, sont présents et donc peuvent communiquer entre eux et dire bah, tel auteur du coup est pris en charge, il contrevient ou non à son contrôle judiciaire, est-ce que la victime, elle est dans quelle position, est-ce qu'elle a besoin d'un téléphone grave danger, est-ce qu'il y a besoin d'un bracelet anti-rapprochement ou non. Et d'ailleurs, ces dispositifs, à la fois TGD et BAR, donc bracelet anti-rapprochement, eux aussi, en fait, ils ont été multipliés en nombre et ils sont clairement plus donnés ou alors plus ordonnés pour le BAR qu'ils ne l'étaient auparavant. Ils sont plus usités par les services judiciaires qu'auparavant. C'est plus difficile quand il s'agit de violences sexuelles non constatées lors de la violence sexuelle ou de violences psychologiques. Pour autant, je pense qu'on va y arriver à un moment donné. Parce que les magistrats, je trouve, sont quand même... Enfin, moi, j'ai vu des condamnations pour des violences psychologiques, seules. Oui, il y a parfois des classements sans suite. Oui, il y a des condamnations. Et je ne saurais mesurer l'un ou l'autre. Mais je pense qu'on va dans le bon chemin pour ça. Voilà. Mais il y a encore du travail, ça, c'est sûr. Et si... Encore une fois, on en revient à la question des moyens. Si on met plus de policiers, plus de magistrats pour étudier un dossier, pour auditionner les auteurs, pour auditionner la victime, s'il y a des psychologues, s'il y a des assistantes sociales et tout, qui maillent tout ça, effectivement, on arrivera toujours plus à caractériser quelque chose que s'il n'y a personne.
La vraie problématique, c'est que les gens qui ne sont pas formés, ou qui n'ont pas le temps, hein, mais parfois qui ne sont pas formés, et également auprès des assistantes sociales, hein, j'ai un vrai problème là-dessus, parce que... Ben,
Nina.
Si l'ex-conjoint dit que des bêtises sur vous, mais que les gens n'ont pas le temps d'aller voir les preuves parce que ben, leurs moyens sont limités, hein, comme en juridiction, c'est pareil, ben, vous retrouvez dans un micmac de oh, « ça doit être un peu madame, un peu monsieur pour... ». Ouais. Et je fais face à des accusations virulentes. Et c'est faux, je suis accusée de choses dans des informations préoccupantes qui sont fausses, que j'ai pas faites. Et ça, c'est horrible parce que... voilà. Ça, c'est une violence. Ça impacte ma vie tous les jours. Ça m'empêche de me reconstruire, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'être spontanée, ça m'empêche d'être spontanée avec mes enfants. Parce que je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'on va encore me faire? Qu'est-ce qu'on va encore me dire? La moindre phrase peut être détournée, la moindre intention peut avoir une autre lecture à charge, à charge. Et là, bah, je dois faire face à des enquêtes supplémentaires encore et encore qui génèrent du stress, font que je ne dors pas. Et bah forcément, ça a un impact sur mon enfant. Bien que je fasse tout ce que je peux, ça a un impact sur mes enfants. Et c'est ça. C'est une spirale infernale. Et les gens croient que c'est du conflit parental. Ils pensent que vous ne valez pas mieux que l'autre. Et ils n'ont pas compris que c'est une violence conjugale qui perdure via l'enfant.
Il a été condamné pour...
Yasmine.
Composition pénale. Composition pénale avec 2 jours de formation sur les violences faites aux femmes. Sauf que malgré la formation, il a continué de m'humilier, de m'envoyer des messages. Et si ce n'était pas par message, c'était oral, surtout, devant notre fille. J'ai dû reporter plainte au mois de décembre pour harcèlement moral parce que j'en pouvais plus. Et il a été convoqué que pour ça au mois de... On est au mois de juillet. Au mois de juillet. Donc il n'y a pas très longtemps là. Il y a une semaine qu'il a été convoqué. Et il a eu une compo pénale. On lui a dit, voilà, il est passé à la limite. S'il recommence la prochaine fois, il n'aura plus le droit de voir sa fille et de s'approcher de moi. La première fois, on m'avait demandé si je voulais de l'argent. J'ai dit non. J'ai demandé juste 1 euro symbolique pour que ça le marque. Et ça ne lui a rien fait du tout. Et avec du recul, je me suis dit, j'aurais dû dire oui, parce que monsieur, il est très frileux auprès de son argent. Et c'était un sujet de conversation, d'ailleurs, qui revenait souvent sur la table et il me contrôlait énormément sur l'argent. Il voulait que j'économise, Donc je pense que si j'aurais demandé de l'argent, ça l'aurait fait peut-être un déclic.
Léonie, coordinatrice de parcours.
Si à un moment donné, la justice ne vient pas acter des choses auprès des auteurs, c'est aussi leur montrer à eux qu'ils ont la possibilité de tout faire et que c'est toléré par la justice. Donc, la peur qu'ils recommencent, qu'ils reviennent, ne pas savoir comment se protéger, ne plus savoir comment se protéger. Parce que si la justice ne nous aide pas et ne nous protège pas, qui va le faire ?
C'était Écouter Agir, le rôle de Citadelle dans la lutte contre les violences au sein du couple, épisode 3. Ce podcast est le fruit d'une collaboration entre la direction égalité de la ville de Nantes, Citadelle, le lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences, Erelle Latimier, créatrice sonore, et moi-même, Clémence Levaux.